Cet accident m'a impressionné beaucoup. J'ai eu un choc. Mais ce choc, je ne peux pas vous dire, mettez votre doigt là-dessus pour voir la pile électrique. Non, c'est purement moi. On dirait que c'est subjectif. Enfin, c'est subjectif si vous voulez, mais c'est quand même le choc qui a produit ça. Et le choc était très objectif. Mais il y a une réaction subjective, je suis tout à fait d'accord. Donc, j'ai tout de suite vu ce qui du reste on voit dans la philosophie grecque, chez Plotin. Aristote ne fait pas du tout de la même façon. On voit qu'il y a deux types d'expériences. Il y a des expériences qui peuvent se communiquer et des expériences qui sont incommunicables. Il est évident que la philosophie ne peut pas commencer uniquement par des expériences incommunicables. Parce que là, je ferai ma philosophie de mon expérience, qui sera peut-être extrêmement riche et intéressante, mais ce ne sera pas communicable. Donc, ça m'intéresse, mais ça n'intéressera pas l'autre. Mais si c'est communicable, je peux dire, faites cette expérience-là. Essayez de comprendre ça. Et alors, à ce moment-là, on peut cheminer ensemble. Et il me semble que la philosophie va pouvoir être communicable aux autres. Le philosophe ne se tient pas à un niveau de description subjective, comme un artiste. Un artiste peut rester cette définition, mais pas un philosophe. Parce que la philosophie tend à être ce qu'Aristote appelle scientifique, c'est-à-dire toucher quelque chose d'universel. Je recherche ce qu'est l'homme, et je dois pouvoir communiquer ce qu'est l'homme. Et je ne peux pas simplement communiquer ce que moi je suis. Et donc, je suis parti de l'expérience, en essayant de comprendre quelles sont les grandes expériences. Et essayer de saisir ça. Puis j'essaie de comprendre qu'est-ce qui vient par l'expérience. Il y a l'admiration. Et comment l'expérience qui produit l'admiration qui est subjective va éveiller mon intelligence, d'où il y aura les interrogations. Ah, ça m'a beaucoup intéressé. Et je me suis mis là très proche de la philosophie contemporaine. C'est très curieux que la scolastique avait perdu les interrogations. L'expérience, elle en parlait, mais c'était la définition qui l'intéressait beaucoup plus que l'expérience. L'expérience est un peu perdue, parce que c'était encore beaucoup trop subjectif. Dès que la définition était universelle, alors ça, c'était quelque chose de tout à fait bien. C'était de la logique. L'admiration, oui, on en parlait, mais très vite, subjectif. Tout le côté subjectif tombait hein, dans la scolastique, ratiboisé complètement. Prenez les choses objectives. Les définitions, l'interrogation, c'est beaucoup trop subjectif. Alors que j'ai vu que c'était très important de reprendre tout le point de vue de l'interrogation, et qu'on retrouvait là un des aspects peut-être les plus intéressants de la philosophie contemporaine. Chez Heidegger, la place de l'interrogation. Chez Merleau-Ponty, cette phrase merveilleuse de Merleau-Ponty, l'idéaliste n'interroge plus. Qui prouvait qu'un scolastique tombait dans une sorte d'idéalisme. Par la logique. Un idéalisme très particulier. Un idéalisme logique.
Socrate déjà interrogé.
Mais Socrate interrogé. Toute la philosophie a commencé par l'interrogation. Et là, on retrouvait toute la philosophie grecque qui est une philosophie de l'interrogation. Et beaucoup de points de la philosophie contemporaine. C'est pour ça que le dialogue avec la philosophie contemporaine est beaucoup plus facile quand on essaie de comprendre que quand on se met à la place de, je ne sais pas moi, de telle idéologie, ou tout de suite l'idéologie nietzschéenne comprend difficilement le positivisme. L'idéologie marxiste comprend difficilement l'idéologie nietzschéenne. Et ainsi de suite, quoi.
Qu'est-ce que vous appelez l'idéologie?
Ah, l'idéologie, c'est justement, on va arriver tout de suite, c'est justement l'inverse. Parce que l'idéologie est toujours idéaliste, ça ne m'interroge plus. L'idéologue poursuit son idée. Et il recherche à l'intérieur de son idée tout ce que son idée contient. C'est un capitaliste, vous voyez. Il a son idée, il a dans la banque de l'intelligence des idées fortes, très très puissantes. Il les développe. Il montre qu'à travers ses idées, il peut tout expliquer. Tandis qu'au contraire, le philosophe, lui,
il regarde la réalité existante. Avant que j'aie des idées, le monde a existé. Avant que j'ai existé et que j'ai des idées, il y a eu des philosophes qui ont pensé. Je respecte ces philosophes qui ont pensé. Je respecte l'univers qui existe avant moi. Et j'essaie de comprendre ce que c'est que cette réalité et ce que c'est que ces idéologies, ce que c'est que ces opinions des philosophes. J'essaie de comprendre cela. Oui, alors l'idéologue, lui au contraire, va peut-être s'enrichir des idées des autres, mais en les ramenant à lui. Alors je dirais, pour bien montrer la différence entre l'idéologie et la philosophie, le philosophe est au service de l'homme. Le philosophe essaie d'aimer l'homme pour l'aider à être plus homme. L'idéologue mesure l'homme par son idéologie. Donc il y a deux mouvements tout à fait différents. Dans toute idéologie, il y a un repli sur sa propre idée. Et l'idéologie ne se développe qu'à travers une dialectique interne, immanente. Tandis qu'au contraire, une pensée réaliste qui cherche la vérité, qui part de l'expérience, voit tout de suite que dès le point de départ, il y a diverses expériences. Il y a une seule idée et diverses expériences. Une réalité qui est devant moi, je peux la voir, je peux la toucher, je peux la goûter, je peux la sentir. Je peux la faire cogner sur un autre et puis il y a un bruit. Je peux l'écouter. C'est curieux. La même réalité, j'ai 5 types d'expériences différentes. Et c'est la même réalité. Je peux dire, cette réalité qui est devant moi, elle existe. Oui, elle existe bien. La preuve, c'est que je la touche. C'est pas quelque chose de factice. Évidemment, c'est une œuvre d'art, mais elle est réelle. Je la vois. Je la touche. Donc, je vois que cette réalité existe et que je l'atteins selon 5 modalités différentes. Et donc, je ne peux plus employer une méthode dialectique. Parce qu'autrement, je choisirais une seule expérience ou à la grande rigueur 2 expériences en les opposant. Tandis que là, je suis obligé de voir que ce point de contact avec la réalité a une très grande richesse. Puisque ces 5 points différents tout à fait différent. Et si je suis un artiste, bah oui, tout de suite, la vision, la lumière, je dirais diverses lumières, je regarderai le même objet le matin, la lumière du matin, je regarderai à midi, je regarderai le soir et à la tombée de la nuit, et sous une lumière de couleurs différentes, ça varie tout. Et le toucher, si elle est chaude, froide, c'est tout à fait différent. Donc à l'intérieur même de la vie, il y a une diversité prodigieuse. Et c'est toujours la même réalité. Alors je réfléchis là-dessus. Je dis, mais tiens, il y a peut-être une méthode particulière qui permet de maintenir cette diversité dans l'unité. Et c'est ce qu'on appellera la méthode analogique, l'analogie. Vous voyez, je crois qu'on saisit là tout de suite le développement d'une idéologie qui se fera par la dialectique. Le développement de l'expérience qui respectera la diversité en maintenant l'unité, et qui comprendra que de fait, je peux creuser différemment. Le même objet peut être éclairé différemment. Et en art, alors là, je le conçois tout à fait, quand je regarde une petite église romane, j'aime bien de la regarder sous des points de vue différents. Et aujourd'hui, l'aviation me permet d'avoir un regard nouveau, une vision aérienne. Et une vision aérienne permet de grouper des tas de choses que je ne pouvais pas grouper avant. C'est une vision du plan. J'ai des intuitions nouvelles qui sont comme ça, grâce à la vision aérienne. Je vois tout de suite les choses très différentes. Il y a quelque chose de nouveau dans mon regard. J'essaie de garder toute cette diversité dans l'unité. Et progressivement, je verrai que de fait, j'avance moins vite. La dialectique s'avance vite. Puis je réfléchis uniquement sur moi-même. Je réfléchis sur mon capital. De l'autre côté, je suis pauvre. Plus il y a de diversité, plus je suis pauvre. Parce que plus je vois que la réalité est bien plus riche que ce que j'en connais. Si j'ai 5 contacts avec cette réalité, ça prouve que cette réalité, elle possède tout ça dans l'unité, alors que moi je possède dans la diversité. Et donc mon intelligence est relative à cette réalité. et j'essaie de comprendre qu'est-ce que c'est que cette philosophie réaliste qui me met tout le temps en contact avec quelque chose qui me dépasse, quelque chose qui est plus grand que moi. Je n'ai pas fait cette réalité que je regarde. Je ne l'ai pas faite. Cette réalité s'impose à moi. Qu'il s'agisse d'une œuvre d'art, qu'il s'agisse d'une œuvre utile, un verre pour boire, ou qu'il s'agisse tout simplement d'une plante.
Ou même de l'autre.
De l'autre, de l'homme qui est en face de moi. Encore plus. Et donc, je vois tout de suite la très grande différence de l'idéologue et du philosophe. Le philosophe est respectueux de la réalité autre que lui. Et ça l'intéresse. Et plus cette réalité est autre, plus ça l'intéresse. Plus ça l'éveille. Plus ça excite son admiration. Alors que l'idéologue, il va mesurer cette réalité. Il voudra la mesurer. Et il la faire rentrer dans son système. Et si elle ne rentre pas dans son système, ça l'intéresse pas. Il laisse tomber. Un pur idéologue, heureusement que souvent, il y a un idéologue et il y a l'homme. Il n'y a pas d'équation entre les deux. Alors quand l'idéologie est poussée à l'extrême, l'idéologie et l'homme s'identifient. Et tout ce qui est en dehors de l'idéologie demande d'être coupé. Alors on arrive à une tyrannie de l'idéologie. Et l'idéologie conduit à la tyrannie quand elle est appliquée au niveau politique. Tandis que la philosophie, plus je suis philosophe, plus je suis attentif à cette réalité, et plus j'écarte tous mes a priori. Si j'ai vu une peinture de certains souliers, et quand je regarde des souliers, je les regarde à travers cette peinture, voilà l'a priori, et je ne saisis plus ces souliers tels qu'ils sont. Deux regards différents, le soulier peint, chef-d'œuvre, et le soulier réel, qui n'est pas un chef-d'œuvre, un objet à vendre, un objet utile. Première chose que je regarde, si il est conforme à mes pieds, si je peux m'en servir. C'est tout à fait différent, il y a deux choses totalement différentes. L'idéologue n'aura plus qu'un seul regard, toujours conforme à la réalité, conforme à mon idéologie, à mon dépassement. Donc là, il y a une très grande différence. C'est pour ça que dans le monde d'aujourd'hui, moi personnellement, moi je suis farouche contre les idéologies. Je sais que c'est pas d'être à la mode. Je sais. Je sais qu'en faisant ça, on se met un peu à l'écart. Je dis pas qu'on est marginal, parce que je crois que quand on cherche la vérité, on n'est jamais marginal.
Pourquoi est-ce que la philosophie contemporaine est si prise par le point de vue de ce que vous appelez l'idéologie ?
Messieurs et mesdames, mettez à la porte votre bon sens. Nous allons philosopher. Alors là, très bien, vous savez à quoi s'en tenir. Mais, ordinairement, on ne dit pas ça.
Oui, est-ce que l'idéalisme, c'est pas toujours la philosophie du voisin, le réalisme, la sienne ?
La philosophie ?
Pour un philosophe, est-ce que l'idéalisme, c'est pas toujours la philosophie du voisin ? Et le réalisme, la sienne. Est-ce qu'un philosophe a pas...
Ah oui, oui, je vois. Oui, je vois ce que je veux dire.
En soi,
oui, oui.
Dans sa démarche.
Il dira, la réalité qu'il saisit, c'est ma réalité.
Voilà, ça lui apparaît toujours comme quelque chose de réaliste à partir du moment où...
Alors, on lui montrera, à partir de là, est-ce qu'il atteint la fin de l'homme ? Est-ce qu'il atteint ? Parce que être... Si votre philosophie est idéaliste, elle est la philosophie, et en disant qu'elle est la philosophie de votre idée, peut-elle encore se communiquer aux autres? Et donc là, vous voyez la limite de votre réalisme. Et l'autre deviendra l'énigme. L'autre, c'est l'enfer. L'autre, est-ce que je peux encore l'atteindre? Est-ce que l'autre, je peux le saisir? Oui, alors ça deviendra le grand problème. Le cœur du problème. Est-ce que je saisis l'autre? Est-ce que je suis capable de saisir l'autre? Et moi, je ne me suis jamais posé le problème avec vous. Savoir si j'étais capable de vous saisir. Je sais que je vous saisis suffisamment pour dialoguer avec vous. Et je crois que c'est réciproque. Alors, si on se saisit réciproquement, on peut dialoguer. Ce qui prouve qu'il y a quand même un réalisme. Et quand je dis ça, je le dis aussi pour un autre. C'est pas propre à vous. Je dirais c'est propre à tous ceux qui veulent m'écouter.
Qu'est-ce qu'il y a? La capacité de dialogue qui serait le signe du réalisme.
Oui. Capacité de dialogue, et j'irai plus loin, je crois que ce serait le sens de la vérité en définitive. Et ce sera le jugement d'existence.
C'est-à-dire de se confronter à une réalité qui ne correspond pas à...
Se confronter à une réalité qu'on accepte comme n'étant pas épuisée par mon idée.
C'est ça. Ouais.
Elle n'est pas épuisée. Je la conçois, je la porte en moi, mais je sais que cette réalité est plus que ce que je conçois. Là, je suis à la frontière. Je sais que j'idéalise. Mais quand je pense, je sais très bien que je ne suis pas le reflet du réel. Que j'ai idéalisé, j'ai transformé en pensant. Je le sais. Et c'est peut-être ça le réalisme, c'est qu'on sait qu'on l'a transformé. Et je sais que je peux toujours revenir à ce réel. Et c'est pas parce que j'ai pensé ce réel que ce réel est détruit. Je peux le penser, l'assimiler, sans le détruire. C'est quand même quelque chose d'assez grand, ça. Mais alors là, on saisit bien la limite entre l'idéalisme et le réalisme. La philosophie d'Aristote, c'est la philosophie du réalisme. Et la vérité conforme. La vérité consiste à dire ce qu'est la réalité autre que moi. Et d'essayer de comprendre si ce que je saisis de la réalité est conforme à la réalité. Alors, à ce moment-là, je peux dire que mon intelligence connaît sa perfection. Elle atteint une qualité qui lui est propre, la vérité. Et au fond, la philosophie sera cette recherche de la vérité, dans une philosophie réaliste. Mais je crois que toutes les philosophies contemporaines ont été très très bloquées par quelqu'un comme Hegel, qui est évidemment génial, sous beaucoup d'aspects, qui est très grand. C'est pas commode de s'affronter à Hegel, c'est pas commode. Et on risque toujours, quand on entend Hegel, de ne jamais en sortir. Parce que si c'est pas comment y entrer, c'est pas comment en sortir. Et on voudrait bien savoir quelle est la petite sortie possible. Qu'est-ce qui me permettrait de sortir?
Et en quoi Hegel est le père de l'idéologie contemporaine?
Parce que c'est à cause de la vivacité de son intelligence. Hegel est un théologien. Je suis luthérien. Qu'est-il?
Il dit quoi?
Je suis luthérien. C'est un croyant. Il a commencé ses études par la théologie. Et je crois qu'Hegel reste toujours un peu un théologien. Ce qui l'intéresse, c'est Dieu. Et toute sa philosophie est orientée vers Dieu. Et toute sa philosophie prétend être tellement profond.
Donc il crée un système parfaitement clos.
Un système parfaitement.
Qui intègre tout.
Ah, oui. Et en ce sens, il n'est pas clos. Du moins. Pour lui, il n'est pas. Mais il assimile. À sa manière. Dans une pensée dialectique, en réalité, il n'assimile pas. Là, c'est très, très intéressant de comprendre, mais je crois que ce n'est pas le lieu ici, de comprendre ce que représente cette démarche hegélienne, dialectique. Et la démarche d'Aristote, qui consiste à induire.
Entends pas dire, Très bien. Bon, donc vous avez,
pour comprendre
Saint Thomas, pour comprendre Saint Thomas, vous êtes revenu à Aristote, vous avez découvert le philosophe Aristote, philosophe réaliste, vous nous l'avez expliqué, qui cherche à comprendre la réalité. Est-ce que alors vous êtes devenu, à l'université de Fribourg, un commentateur d'Aristote ?
Non. Non. J'ai essayé d'écrire un petit livre sur Aristote sans être commentateur. Peut-être certains articles ont été recevés comme j'ai jamais, je crois. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse sur Aristote, c'est l'homme qui pense. C'est le philosophe, quoi. Contact avec la réalité, voir comment Aristote, de son temps, tant qu'on peut le savoir, a dépassé ce conditionnement de son temps, le conditionnement de sa culture, le conditionnement d'avoir comme maître Platon. Avoir comme maître Platon et être devenu Aristote. Ça prouve une vigueur d'intelligence et un respect à la fois du maître, mais un souci de vérité encore beaucoup plus grand. La fameuse parole d'Aristote sur Platon dans l'Éthique. La vérité, Platon, je les aime tous les deux. Mais la vérité en premier lieu. Mais ça, ça montre comment il a essayé tout le temps de rechercher cette vérité. Et c'est ça qui m'a le plus impressionné dans Aristote. Et alors la chose première qui m'a intéressé, c'est sûr, ça je peux le dire, c'est l'éthique. Parce que c'est plus facile, et puis au point de vue de théologie morale, en même temps de Saint Thomas, quand on fait la théologie morale de Saint Thomas, on voit tellement que c'est la présence. C'est dit très différemment de Saint Thomas, mais c'est là présent. On ne peut rien comprendre, la théologie morale de Saint Thomas, si vraiment on ne regarde pas l'éthique. Oui, on peut comprendre, c'est sûr, mais en profondeur. C'est sûrement l'éthique. Ça, je crois que l'éthique, la double, l'éthique à Nicomaque, l'éthique à Eudème, ça c'est quelque chose. Et on voit l'Aristote qui est l'ami, parce que c'est dans l'éthique. Il y a ce grand traité sur la filia, et puis le contemplatif. Et les deux choses, amitié et contemplation, ne s'opposent pas pour lui. C'est très différent, mais ça ne s'oppose pas. Et puis alors après, ça c'est sûr, je me suis attaqué très très vite à sa philosophie première. Mais ça, c'est dur, très dur. Heureusement que je savais que quelqu'un comme Avicenne avait lu 50 fois le livre de Séta avant de le comprendre. Alors ça me donnait du courage pour le lire indéfiniment et essayer de le comprendre. Parce que ce qui m'intéressait, c'est vrai, c'était pas de savoir, comme beaucoup de modernes actuels, les couches historiques d'Aristote. Moi j'ai l'impression que c'est un faux problème. Si on me posait la question « Quelles sont vos couches historiques ?» Vous auriez pu me poser ça comme question. Quelles sont les couches historiques ? Je dirais, mais écoutez, je vis. Je me pose pas la question de savoir si, au fond, aujourd'hui, je pense différemment d'hier. Mais je m'en aperçois quand je reprends un écrit d'il y a 30 ans sur Aristote, ce que je fais maintenant. Alors je me dis, ah oui, là je m'aperçois qu'en effet, il y avait certaines choses que je n'avais pas saisies. Mais à quel moment je les saisis ? J'en sais rien, je le note pas. Je pourrais évidemment le noter. J'aurais un carnet de santé intellectuelle comme ça. Mais je crois que Aristote vivait. Il vivait sa philosophie. Alors, c'est possible que ses notes d'étudiante, c'est possible aussi ses propres notes. Il vivait sa philosophie. Et donc, ce qui l'intéressait avant tout, c'était de communiquer aux autres cette philosophie. Et de permettre que cette philosophie soit communicable. Et donc, ce qui m'a intéressé avant tout, c'est de rechercher la structure philosophique de la pensée d'Aristote, de redécouvrir ses inductions, les moments où il passe de l'expérience à la saisie des principes propres, des causes propres qui commandent toute sa philosophie. Ce que on oublie complètement quand on lit Aristote sous un autre point de vue, de comprendre que le style d'Aristote, que sa manière d'être est différente en éthique et en philosophie première, que c'est différent quand il fait la physique il parle du traité sur l'âme. Et c'est là où je vois que la philologie contemporaine très développée ne peut pas comprendre cela. Parce que pour Aristote, la parole, il le dit lui-même. Donc il a découvert ça. La parole exprime, communique ce qu'on a pensé. Et donc, si Aristote a une pensée analogique à des niveaux différents, les mots employés en éthique et en philosophie première auront une signification qui ne sera pas tout à fait la même. Alors que philologiquement, c'est le même terme. Il faut le regarder comment il est employé et dans quelle lumière. Puisqu'Aristote, avant chacun de ses traités, souligne le point de vue dans lequel il se place. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'objet. Aristote a découvert l'analogie. Il a découvert l'analogie. Et il sait s'en servir. Et il s'en sert. Et il s'en sert pour aller plus vite. Ce qui m'a intéressé énormément dans Aristote, c'est de voir combien ce disciple de Platon et en même temps cet homme libre à l'égard de Platon, à l'égard de son maître, dans sa recherche de la vérité, combien Aristote fait appel aux expériences artistiques constamment, parce qu'il sait que au plan philosophique, la connaissance que nous avons des réalités artistiques est une connaissance plus immédiate que la connaissance que nous avons du monde physique. Autrement dit, Aristote commence sa philosophie par une philosophie pratique et une philosophie humaine. Et c'était qu'ensuite qu'il passe à une philosophie dite théorétique, c'est-à-dire une philosophie contemplative qui recherche la vérité pour elle-même. Alors que dans une vision scolastique, on a fait juste inverse. Et ça, c'est intéressant parce que ça montre tout de suite la question de la structure de la pensée philosophique d'Aristote et la structure de pensée dans la scolastique. La scolastique met en premier lieu la logique. Alors ça, toujours. Puis, la philosophie de la nature. Philosophie du vivant. Métaphysique, au terme. Et on considère que la philosophie pratique, c'est comme l'application de ce qu'on a saisi en philosophie spéculative à l'activité humaine. Alors vous voyez, dans cette perspective, l'homme n'est plus ce que le philosophe cherche en premier lieu. Ce que le philosophe cherche en premier lieu, on dira, c'est la logique, c'est les définitions, c'est le point de vue spéculatif. Non, c'est pas ça que l'homme cherche en premier lieu. Ce que l'homme cherche en premier lieu, c'est de comprendre ce que c'est que l'homme. Et pour comprendre parfaitement l'homme, on passe à la philosophie pratique. Qui, chez Aristote, est l'éthique et la politique. Et la poétique. Il y en a trois. Et cette philosophie pratique qui nous fait découvrir l'homme, cherche son bonheur. L'homme qui aime le travail et qui réalise des œuvres. Si on pousse cette connaissance de l'homme, on sera obligé d'arriver à une connaissance plus profonde, plus radicale, qui sera la philosophie spéculative. Elle vient en second lieu. Parce qu'on sait que les principes propres saisis au niveau de la philosophie humaine ne sont pas une application d'une philosophie antérieure. C'est la réalité elle-même, c'est l'homme dans son action qui me fait comprendre ce que c'est que l'action de l'homme. Ce n'est pas la métaphysique qui me fait comprendre l'action de l'homme. Mais c'est l'homme dans son activité, l'homme qui transforme. même univers. L'homme face à l'homme. L'homme dans son point de vue politique qui me fait comprendre ce que c'est que l'homme. Et la métaphysique sera là pour aller plus loin et pour permettre à l'homme de se poser la grande question. Est-ce que l'homme est la réalité dernière, ultime, la plus parfaite? Si l'homme peut être d'une certaine manière le bien d'un autre homme et sa fin, est-ce que c'est absolu? Y a-t-il une réalité plus grande que l'homme? Je n'ai jamais expérimenté, mais existe-t-elle? Les traditions religieusement parlent, me parlent de Dieu. Est-ce que c'est purement mythique? Est-ce que c'est une fable? Ou est-ce que c'est quelque chose de vrai? Et là, je dois pouvoir répondre à cela, puisque c'est capital pour ma vie. Et c'est pour cela que je fais de la philosophie théorétique. C'est pour cela que je fais de la métaphysique. C'est pouvoir répondre à cette question que les traditions religieuses me montrent, me manifestent. Donc, c'est très important de saisir l'ordre et la structure de toutes les œuvres d'Aristote. Pour moi, ça m'a été quelque chose de capital, parce que j'ai très bien compris à ce moment-là que l'ordre de recherche du théologien et l'ordre de recherche du philosophe étaient tout autres.
Une question par rapport, vous dites qu'Aristote part de l'expérience et une philosophie réaliste, et que c'est une des choses qui vous a plus frappé chez lui. En même temps, aujourd'hui, on sait qu'il y a toute une partie de la philosophie d'Aristote, notamment le traité du ciel, qui sont complètement périmés. Alors comment est-ce que Aristote a pu se tromper comme ça sur des choses aussi importantes, sur toute sa cosmogonie par exemple?
Mettez-vous dans la perspective du temps. Mettez-vous en face d'un Platon. D'abord, il faut bien comprendre la place du Decello. Elle est très difficile à comprendre, je suis tout à fait d'accord. Le De Cello, traité du ciel, traite des corps qui seraient physiques, que nous constatons et que nous expérimentons, le ciel, et qui pour Aristote est les traditions de ce temps sont quasi divins, sont des corps, des réalités quasi divines. Ça, c'est net selon les traditions. Aristote essaie de réhabiliter une philosophie de la réalité physique en montrant que la réalité physique a une certaine intelligibilité propre. Il essaie de comprendre ce que c'est que cette philosophie des réalités que nous constatons, des réalités mues que nous constatons. Ceci, je dirais, Elles sont déterminées et elles sont indéterminées. Elles sont des contraires. On est dans un combat de lutte. Constant, constant. Et il y a quelque chose qui subit ces luttes, qui les porte. On est en présence d'un univers qui devient, qui est corruptible. Et cependant, cet univers corruptible a son intelligibilité. Et c'est ça qu'Aristote essaie de rétablir. Il va ensuite chercher à préciser la signification de ces corps naturels que l'homme n'a pas fabriqués et qui sont, d'une certaine manière, au-delà de mon expérience immédiate, mais qui jouent un rôle si important, puisque je suis enveloppé de ce cosmos. C'est tout le sens grec du cosmos, l'ordre parfait de cet univers. Ce que certains ont bien précisé, Duhem entre autres dans toute son histoire de la physique, montre que pour un grec, c'est si important de saisir ce monde régulier des étoiles qui donne le sens du nécessaire, qui donne le sens qu'il y a quelque chose au-delà du contingent, au-delà des choses qui passent. C'est des choses qui demeurent. Et c'est expliquer ce que représentent ces réalités qui demeurent qu'Aristote va essayer de construire son Decello, qui est évidemment inscrit dans toute une série de traditions. Mais pour Aristote, le Decello ne nous donne pas des principes. Et c'est cela que la plupart ne voient pas, le passage de ce qu'Aristote appelle les physiques et son livre du Decello. On passe de la recherche de la finalité à la recherche du comment.
Et là, sur le comment, il se trompe.
Et sur le comment, il se trompe magistralement.
Parce qu'il est victime des opinions de son temps.
Parce qu'il est victime des opinions de son temps. Mais ça ne touche pas les principes.
D'accord. Donc ça ne n'enlève en rien la qualité de sa propre philosophie.
Et Aristote sait que c'est du comment. Mmh. Et Aristote sait que là, ce qu'il dit, mais oui, c'est...
Il part des opinions des savants.
Oui, et de l'expérience qu'il a en disant, on a tellement peu d'expérience des étoiles, on ne sait pas ce que c'est. Alors on peut dire et décrire uniquement leurs choses. Et alors il se sert des astronomes et de l'astronomie du temps. Et là, il n'hésite pas à se servir de l'astronomie du temps. Donc il y a une distinction très grande entre la découverte de la nature comme nature, la nature forme, la nature matière, la nature
femme, des principes,
les principes propres de ce qui est mu, et du comment.
D'accord.
Et tout le Decello, c'est le comment.
Donc il manquait à Aristote la connaissance scientifique contemporaine pour réfléchir sur la matière qu'il...
Aristote s'en va sur cette conférence devant la connaissance, mais il l'aimerait follement.
Oui, il irait beaucoup plus loin que le philosophe.
Donc
le philosophe a besoin aussi de cette analyse du comment qui peut l'aider à aller plus loin dans sa...
C'est évident, surtout lorsqu'il sait que c'est le comment qu'il recherche.
Voilà.
Quand on essaie de voir comment le comment des étoiles et des galaxies, du reste les savants ne disent pas grand-chose.
Et une autre objection qu'on fait très souvent lorsqu'on veut montrer les limites de la pensée d'Aristote, on dit également qu'il a été un partisan de l'esclavage en disant qu'il y avait des esclaves par nature. Est-ce que c'est une... Qu'est-ce que vous répondez à cette objection classique
Faut qu'on sent, là encore, la question du temps et savoir ce qu'Aristote entendait par esclaves par nature.
Exactement.
Les esclaves par la nature, c'était des gens qui par eux-mêmes étaient incapables d'arriver à se gouverner eux-mêmes, c'est-à-dire selon la prudence.
C'est pas une question de race.
Non, pas du tout. Et c'est pour ça qu'ils considèrent que l'esclave par nature, le maître, le vrai maître, doit tout faire pour le libérer.
Donc c'est plus une question de conditionnement de
alors,
l'individu
non,
qui n'est pas capable de...
C'est une constatation que certains
individus
sont incapables par eux-mêmes de se gouverner. Mmh. Et donc ils sont incapables par eux-mêmes de se gouverner. C'est leur bien d'être sous la tutelle d'un maître.
D'accord.
Qui les prend en charge. Et c'est pour ça qu'il dit que l'esclave est un instrument dans l'ordre de l'action et non pas
Mais
on ne se sert pas de l'esclave pour soi.
Donc il
s'en sert pour l'aider.
Pour l'aider. Donc il n'a pas la même conception de l'esclavage qu'avaient les Grecs de son époque. Qui disaient il y a les barbares, il y a les Grecs, et qui distinguaient les races et les.
Il n'est pas du tout à ce niveau-là. Il a dit exactement que l'esclave par violence.
Oui, c'est ça.
Prisonnier de guerre. C'est contre nature.
D'accord. Donc il s'est déjà.
Il fait toute une analyse sur l'esclave. Alors, on dirait aujourd'hui, c'est l'homme incapable, on ne prendrait plus le mot esclave, mais de son temps,
on prendrait c'est le mot esclave. Quoi,
et au fond, le mot esclave voulait dire que ça appartenait au maître de famille. C'était dans la famille. L'esclave était dans la famille,
d'accord,
comme partie de la famille. Et alors, c'était l'avoir du maître. Et le maître en avait la responsabilité. Il devait tout faire pour l'aider.
Avoir son autonomie.
À redécouvrir une certaine autonomie. Oui. Et coopérer de manière telle que dans la coopération, le bien du maître et le bien de l'esclave soient le même.
D'accord.
Pour qu'il n'y ait pas cette opposition. Oui. Alors évidemment, nous sommes très sensibilisés au mot esclave.
Esclave, c'est le mot qui bloque.
Doulos, évidemment. D'accord. C'est très. Mais parce que de fait.
C'est l'incapable un peu, c'est lui qui ne peut pas se maintenir par lui-même.
Celui qui ne peut pas par lui-même.
Oui. Mais alors, il a une conception également analogique du mot nature.
Ah oui, tout à fait.
Ce n'est pas le même mot dans sa physique, dans sa...
L'esclave par nature, ça veut dire l'esclave qui, par naissance, est incapable de se gouverner lui-même.
Ouais.
On dirait des handicapés aujourd'hui.
Ouais, d'accord.
Ils ne peuvent pas.
D'accord.
Alors évidemment, on ne dirait plus le mot esclave. On dirait tout simplement que ce sont des hommes qui ne peuvent pas arriver à leur maturité sans être. Sans vivre.
Sous les ordres d'un homme.
C'est ça, sous les ordres d'un homme. Et sans vivre dans une famille.
Comme ça, d'être assisté.
Oui. Sans être assisté.
Alors,
aider.
Un milieu, c'est ça.
Oui, mais un milieu.
Vous avez découvert ce génie, donc on voit que vous aimez beaucoup Aristote, que vous avez été des longues années à son école. Qu'est-ce qui vous a donné envie de développer une pensée personnelle? Pourquoi est-ce que vous vous êtes pas contenté d'enseigner cette philosophie? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller
plus loin? Parce que je suis du 20e siècle. Étant du 20e siècle, je peux pas répéter Aristote.
Pourquoi s'il s'est pas trompé sur l'homme?
Il y a des points sur lesquels je suis conscient d'aller plus loin qu'Aristote. C'est explicite Aristote, ça tout à fait. Ça tout à fait. Mais je vois qu'Aristote a une formation extraordinaire. Et pratiquement, quand je philosophe, je ne fais plus de tout allusion à Aristote ou pas. Je philosophe parce que j'ai la réalité devant moi. Aristote m'a aidé comme un maître merveilleux. Il m'a formé. Je dis maintenant, je l'aime beaucoup. Chaque fois que je relis Aristote, je vois que c'est très fort. Et qu'il y a des choses même que je n'ai pas compris. Et donc il y a quelque chose que je comprends, il y a des choses que je découvre que maintenant. Et pourtant j'ai fréquenté beaucoup, beaucoup. Mais que je découvre que maintenant. Et dans ma philosophie, j'en comprends tout de suite les incidences. Alors que avant je ne savais pas compris dans incidences. Et je vois que, par exemple, ce que je viens de vous dire sur le Decello, mais il n'y a pas très longtemps que j'ai compris ça. Parce qu'avant, je me suis heurté devant le Decello. Je me suis dit, mais quand même, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est pas comme du tout. La quintessence d'Aristote, cinquième élément, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut encore l'accepter ou pas l'accepter? Et je suis tout le temps en question comme ça. Dois-je l'accepter? Dois-je pas l'accepter? Si ça repose sur l'expérience, ben, l'expérience humaine est la même. Je crois que quand je touche une pierre, ou quand je touche une eau chaude, je crois que j'ai le même contact qu'Aristote avait.
Oui. Donc Aristote vous a à la fois donné, pas une méthode, mais le point de départ d'une réflexion philosophique, et vous a aidé à former votre intelligence.
Tout à fait.
Ensuite, vous avez cherché à développer une philosophie, c'est-à-dire un regard sur l'homme.
Parce qu'il me semble que, en dehors d'Aristote, je ne vois aucun qui m'a donné quelque chose d'aussi précis et un contact avec le réel, constant.
D'accord.
Et qui va très loin.
D'ailleurs, est-ce que c'est pas Hegel qui disait « Seul Aristote forme »
Aristote, elle est intéressante parce que c'est intéressant de voir que Hegel, au fond, il se considère comme l'Aristote de notre monde d'aujourd'hui. Venez, alors il y a quelque chose de juste parce que c'est le point de vue du conditionnement. Mais c'est faux parce que je crois que Aristote ne doit pas aimer beaucoup Hegel.
On entend quelque chose que je voulais entendre, vu quelque chose là.
Ah bon,
voilà, j'entends, c'est mieux.
Voyez, on s'est dit qu'on allait prendre la soupe.
Est-ce que vous pourriez, mon père, maintenant nous expliquer quels sont les. Puisque vous n'avez pas seulement commenté Aristote, quels sont les divers axes de votre pensée, de la philosophie que vous avez cherché à développer?
Si on prend une philosophie de l'expérience humaine, on doit en premier lieu essayer de découvrir quelles sont les quelques grandes expériences de la vie humaine. Expériences pas au niveau simplement de la conscience, dans un aspect purement subjectif, mais dans tout le réalisme profond de la vie humaine, pour essayer de comprendre une anthropologie qui ne soit pas, à la manière de Kant, une anthropologie coupée de la réalité et prise uniquement d'un point de vue de réflexion sur la conscience de l'homme, mais voir quelles sont les grandes orientations de la vie humaine. Et je crois qu'aujourd'hui, si on veut rejoindre la pensée contemporaine et surtout les jeunes, je dirais que le souci philosophique n'est pas tellement de rejoindre ce qui se dit dans les universités, parce que là on est toujours un peu en retard, c'est plutôt de voir directement ce que les jeunes d'aujourd'hui attendent. Et ça me semble très significatif. Si on se met à la remorque de la pensée de ceux qui enseignent aujourd'hui, ils sont en retard. Ce qui est merveilleux, quand on peut avoir ce que la Providence me donne, c'est-à-dire un public de jeunes qui cherche la vérité, qui essaie de comprendre ce que c'est que l'homme, on peut y aller beaucoup plus directement. Et on peut se mettre directement, j'attirais, à leur école, à l'école des l'homme dans sa dimension première, l'homme qui transforme l'univers. Je crois que c'est cette première expérience que on doit regarder aujourd'hui. Quelqu'un comme Camus, qui était au fond très proche des jeunes. Camus n'était pas, je dirais, quelqu'un qui était qui avait le souci de faire une œuvre philosophique. Parmi d'autres œuvres, il avait cette espèce de sens artistique et philosophique qui le mettait très proche de ce qu'on voit monter chez les jeunes. Et Camus souligne avec beaucoup de force combien les jeunes d'aujourd'hui sont fascinés par une œuvre de beauté. C'est plus le sens moral qui est premier chez eux. C'est beaucoup plus ce souci d'une expérience du monde de la nature, des réalités physiques dans lesquelles nous nous trouvons, et une recherche de toute activité artistique, et le sens du travail et de l'activité artistique. Et je crois que c'est ça qu'on doit faire aujourd'hui, en premier lieu. Sans négliger le reste, mais voir que toute anthropologie repose en premier lieu sur ce que représente cette expérience de l'homme dans le point de vue du travail, en prenant le travail dans le sens le plus vaste qui soit, c'est quand même l'expérience humaine la plus fondamentale. C'est l'expérience humaine qui nous prend depuis notre enfance jusqu'à la fin de notre vie. Et quand l'homme ne peut plus travailler, qu'il est chômeur, ben, il y a quelque chose en lui qui ne va plus. Il y a comme une espérance qui disparaît. Tandis que lorsqu'il peut réaliser quelque chose, il veut toujours réaliser quelque chose de plus parfait. L'expérience du travail et la réalisation d'une œuvre maintient une espèce de jeunesse dans l'homme, maintient un élan de vie avec un désir d'aller toujours plus loin, de sorte que je crois que le philosophe qui essaie d'être au service de l'humanité, et je distingue bien ce qu'on avait dit hier, c'est pas le philosophe qui essaie de faire une œuvre, c'est le philosophe qui essaie d'être au service des hommes. C'est une sorte de vocation, la philosophie, une vocation à la sagesse. Et on est au service des hommes. Et on doit de les prendre là où ils sont, là où on peut les atteindre directement. Et dans le monde d'aujourd'hui, je crois que c'est cela. Je dirais, face au marxisme, qui a eu une telle influence, on ne peut pas le nier, face au freudisme, je crois que la philosophie de l'activité du travail, de l'activité artistique au sens le plus général, me semble absolument capitale. Du reste, les meilleurs psychologues soulignent que tant que l'homme a un certain goût pour le travail, on peut toujours le rééduquer, le rééquilibrer. C'est le moment où l'homme n'a plus le sens du travail. Et c'est peut-être là où on doit être très attentif à cela, parce que si les jeunes ont un souci artistique, quelquefois aussi ils n'aiment plus beaucoup le travail. Et les quantités d'hommes d'aujourd'hui, je crois que c'est ce qui se passe très fort du côté de l'Est, ayant eu une notion fausse du travail qui les a abrutis, il faut redécouvrir un travail qui ennoblit l'homme, un travail qui permet à l'homme d'être vraiment dans un vrai dialogue, dans une vraie coopération avec les réalités devant lesquelles il se trouve. Et c'est pour cela qu'il me semble capital aujourd'hui de commencer l'éveil philosophique. Il faut éveiller à la philosophie en essayant de par son travail. Et je dis bien, le travail, c'est cette sorte de coopération avec l'univers. L'homme n'est pas seul. Il sait que l'univers est avant lui. Et donc, il n'a pas à se poser la question de savoir si c'est lui qui donne le sens à l'univers ou si c'est l'univers qui lui donne son sens. Il voit tout de suite que l'univers, c'est pour lui comme un donné premier. Et que ce donné premier, il peut le transformer pour le rendre plus humain, pour permettre à l'homme de trouver un milieu de vie qui soit épanouissant pour lui. Et on le ressent très fort, ça, aujourd'hui. Quand on voit les villes, par exemple, la ville n'est plus un milieu de vie qui épanouit. C'est un lieu de concentration. Alors, si on a un travail très important, on peut encore y vivre. On essaie d'y échapper le plus vite possible et retrouver à la campagne un milieu de vie qui soit apaisant, qui soit vrai, et dans lequel l'homme pourra retrouver ce sens d'un travail qu'il a choisi et qui lui permet de s'épanouir. Cette notion, ou c'est exactement cette expérience du travail, me semble capitale. Parce que le travail, c'est tout l'homme qui est pris par cela. Sa sensibilité, son imagination, son cœur, l'attention qu'il doit y mettre, sa volonté, une école de merveilleuse pour former la volonté. Parce que quand on travaille, on doit travailler jusqu'au bout. On ne doit pas s'arrêter en plein milieu. Et aussi le point de vue de l'intelligence. Parce que quand on travaille, petit à petit, il y a l'éveil d'une intelligence qui veut aller plus loin que de simplement faire ce qu'on a toujours fait. Il y a un désir de découverte et de découverte toujours plus profonde pour permettre à l'homme de pouvoir vivre d'une façon saine, d'une façon vraie, pour permettre à l'homme de créer un milieu qui lui soit agréable, qui soit paisible et épanouissant. Alors on retrouvera là tous les niveaux propres du travail humain. Et je crois que c'est important d'essayer de comprendre un peu tous ces niveaux du travail humain. Le travail très simple, premier, fondamental, qui est au fond toujours un peu artisanal, et qui repose parce qu'il est en contact direct avec la réalité physique, j'allais dire avec la matière brute qui est donnée, et qui repose, même si c'est dur, même si c'est pénible, même si c'est un travail laborieux, ce travail permet à l'homme de faire quelque chose, de réaliser quelque chose, et il reviendra tout le temps là-dessus. C'est très curieux de voir que notre philosophie occidentale a commencé avec Hésiode, les travaux et les jours. C'est Hésiode paysan qui d'une certaine manière est le premier philosophe. Et je dirais qu'aujourd'hui, quand on essaie de comprendre un peu où se trouve encore une pensée humaine sur l'homme, c'est chez le paysan, chez l'artisan, pas chez l'ouvrier d'usine qui est fatigué, qui n'en peut plus et qui essaie de travailler le moins possible. Tandis qu'au contraire, le paysan et l'artisan aiment son travail parce qu'il voit le résultat de ce travail. Il a un peu choisi cela. C'est un peu son orientation propre. Je crois qu'il faut redécouvrir profondément cette dimension pour que l'homme puisse toujours avoir ce contact premier, très fort, avec cette réalité un peu brutale, mais bonne. L'homme face à notre univers, on apprend à le regarder, l'univers, par le travail. Ce travail travail artisanal va pouvoir prendre du reste toutes les formes du travail artisanal, depuis l'agriculture, l'élevage et tout ça, jusqu'à un travail beaucoup plus artistique, qui alors est au niveau de la culture humaine. On ne cherche plus immédiatement à réaliser ce qui est indispensable pour l'homme, pour sa nourriture. Mais on cherche à élever le cœur de l'homme, à éveiller son intelligence. Alors on est en présence vraiment d'un travail artistique. C'est l'art, au très grand sens, qui permet à l'homme d'avoir tout un développement profond et un climat agréable et de beauté. Je crois que c'est le premier axe d'une philosophie réaliste. Et ceci me semble très important, surtout dans notre monde d'aujourd'hui. On est un peu emporté par un climat scientifique, par un climat de technique, surtout maintenant avec l'ordinateur, l'information et tout cela, qui risque de nous mettre dans un climat qui n'est plus vraiment humain, où l'homme est obligé de trouver un moyen de gagner sa vie, mais ce n'est plus ce contact premier avec la réalité physique, avec le monde. On se crée un monde factice, et je crois que c'est le très grand danger d'aujourd'hui. Et en face de ce danger, le philosophe doit être très, très en état d'alerte. Il ne va pas contre, on ne peut pas, je crois, aller contre ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, au point de vue économique, au point de vue de ce que représente l'équilibre international. Mais on peut rappeler qu'il y a une dimension humaine qu'on ne peut pas télescoper, qu'on ne peut pas supprimer. On ne peut pas supprimer ce contact simple de notre sensibilité, de notre connaissance sensible avec la réalité du monde physique. Et que ce contact premier, s'il est supprimé, on risque de s'évader. On risque d'entrer dans un domaine qui n'est plus l'humain au sens fort. C'est un domaine de spéculation, et de spéculation dans l'ordre économique, qui fait qu'on n'a plus cette possibilité d'être parfaitement homme. On développe autre chose, on développe un domaine de possible. Toutes les possibilités qu'il peut y avoir, et elles sont quasi infinies, et on s'y perd. Avec la réalité du travail simple, qu'on doit toujours garder, je crois, sous des formes multiples et diverses, on doit toujours garder cela. L'homme reprend contact avec le réel. Alors, il me semble que c'est cette recherche de la philosophie de l'activité artistique qui est fondamentale aujourd'hui dans une anthropologie qui veut regarder l'homme dans toutes ses dimensions, qui veut être attentif à l'homme face à l'univers, qui veut comprendre que l'homme a un corps et que par ce corps il fait partie de l'univers. Il ne peut pas s'évader de cet univers, c'est absolument impossible. S'il s'évade de cet univers, mais il perd ses racines. Il est enraciné dans ce monde par le point de vue de son corps. Alors où il va s'y opposer, voulant s'évader complètement de ce monde et se mettre dans un état qui n'est plus réel, où il va s'y engouffrer parce parce que de fait, il n'aura pas compris que l'homme est quand même celui qui doit dépasser cet univers et s'en servir. Et il s'en sert en coopérant et non pas dans une attitude de révolte.
Oui, vous dites que l'homme est appelé à transformer l'univers, mais effectivement, on voit aujourd'hui qu'il peut le faire de plusieurs manières. Il peut le respecter, cet univers, comme il peut le tyranniser. Et on voit que tous les problèmes d'environnement et d'écologie, que bien souvent le travail humain a détruit la nature.
C'est sûr. Et je crois, en raison même d'un progrès intense de la technique, on a toujours le danger de s'écarter de la réalité profonde, je dirais de la nature qui nous est donnée, du milieu dans lequel on est, sans tenir compte que se donner, c'est un patrimoine. Le premier patrimoine, il est là. Et si vous supprimez ce patrimoine, je me souviens d'une petite expérience qui m'avait beaucoup frappé du reste. C'était déjà vieux, parce que c'était en 1950, la première fois que j'étais parti aux États-Unis, au Canada, en passant par les États-Unis. Et j'étais sur le Liberté. Et j'ai fait la route du retour avec un jeune. Il avait 22 ans. Il était parti à 18 ans aux États-Unis, espérant trouver fortune, comme beaucoup de jeunes de cette époque. Et il m'a dit, je reviens marxiste. J'ai passé 4 ans aux États-Unis, je reviens marxiste. On a discuté longuement ensemble, du reste de façon très sympathique, mais aussi de façon très dure. Et on voyait très très bien que il est amer devant ce monde qui, au fond, ne tenait plus compte de l'homme et ne cherchait que le profit, qu'une efficacité toujours plus grande. Et quand on est arrivé en France, au Havre, on a repris le train pour Paris. Je le voyais regarder la campagne française qu'il avait quittée depuis 4 ans. Alors, il a eu cette petite réflexion qui m'a beaucoup frappé dans sa bouche. Ah, je vois qu'ici, on cultive encore. On ne fait pas qu'exploiter. Et je crois que c'est très juste. Le travail, c'est cultiver à tous les niveaux. Ce n'est pas exploiter. Quand on exploite, les dents des petits-fils en sont agacées. Parce que justement, le patrimoine premier n'est pas respecté. Et je crois que c'est ce sens-là qu'on doit, au plan philosophique, retrouver, qui est très sain, du reste, qui est élémentaire. Le cultivateur cultive pour faire que sa terre puisse être de plus en plus une terre fertile. Un champ fertile qui puisse recevoir la semence et que la semence puisse pousser et porter tous ses fruits. Tandis que quand on exploite, on ne respecte pas le patrimoine premier, on ne respecte pas ce donné initial et on essaie d'en tirer le plus de profit possible. Sans respecter ce patrimoine et sans permettre à ce patrimoine d'aller plus loin et de se bonifier pour porter plus de fruits. Je crois que c'est la très grande tentation d'aujourd'hui. On veut aller très vite. Le rythme de la machine, le rythme de la technique n'est plus un rythme humain. Et nous avons les pieds sur une terre qui n'est pas au même rythme. Quand on essaie de comprendre un peu les changements de la terre, c'est lent, c'est très lent. Quand on essaie de regarder les changements de notre planète, c'est encore plus lent. Et nous avons un rythme qui est un rythme de la technique. Et on est esclave de la technique aujourd'hui. C'est plus l'homme qui se sert de la technique pour s'épanouir. Mais il est emporté par cela. il en vaut le fruit des idéologies. Parce que justement, l'instrument devient la mesure du travail. Ce n'est plus l'homme qui se sert d'un outil, mais c'est l'homme qui surveille un outil et qui va au rythme même de cet outil. Et cet outil va tellement vite que l'homme est emporté et qu'il ne peut plus réfléchir et dominer la situation. Il devient l'esclave. Il y a un nouvel esclavage. On parlait de l'esclavage d'Aristote hier, et je crois que on doit regarder ce nouvel esclavage qui est terrible parce qu'il est anonyme. C'est pour ça qu'on ne le regarde plus, mais il est anonyme. Combien d'hommes aujourd'hui travaillent encore d'une façon humaine? Combien d'hommes aujourd'hui sont exploités, donc deviennent des esclaves d'un rythme de vie qui n'est plus humain? Alors, si le patrimoine de la terre est exploité, j'allais dire le patrimoine humain aujourd'hui est exploité, il n'en tient aucun compte de ça. On ne voit plus ça, sans voir qu'on va avec une vitesse telle qu'au bout d'un certain temps, qu'est-ce qui va rester? Je sais très bien, cette perspective-là semble purement pessimiste. Elle ne doit pas l'être. Elle doit souligner que c'est terrible de ne regarder que le primat d'efficacité, de ne pas faire cette distinction entre coopérer avec la nature, avec la matière, et exploiter la matière. L'homme qui travaille ne réfléchit pas là-dessus. Mais est-ce que c'est pas le rôle du philosophe, plutôt de se jeter dans des calculs indéfinis? Est-ce qu'il ne doit pas être attentif à l'homme dans son premier contact avec la nature? Est-ce qu'il ne doit pas rappeler là que le travail doit équilibrer l'homme et non pas le détruire? On retrouvait ça à tous les niveaux, même au point de vue, j'allais dire, de la culture première et de l'enseignement. Ce sont les examens, ce sont des concours. Et on ne voit pas que par ces concours-là, à la place de permettre à chacun de devenir un peu intelligent et de comprendre un peu ce qu'il fait, on abrutit.
Alors, vous parliez hier de la perte de la finalité, c'est typique, et donc c'est typique dans ce domaine-là.
Et c'est très net, c'est qu'on ne voit plus l'œuvre qu'on fait. L'œuvre qui est au service de l'homme. L'homme qui est pour l'homme. On n'est plus au service de l'homme. On cherche éperdument à dominer, à gagner le plus qu'on peut. Pourquoi? On ne sait pas. C'est le plaisir de dominer et le plaisir d'être premier. Et d'avoir une économie.
Et la compétition.
La compétition. La rivalité. On me disait cette chose, moi qui m'a beaucoup frappé, c'est cet économiste que je connais bien à Genève. Et je l'aime beaucoup. Et il me dit toujours des choses qui m'intéressent beaucoup, moi, au point de vue philosophique. Il me parlait de ce petit événement qui est arrivé, je crois, il y a 2 ans ou 3 ans, au Japon, dans l'usine Toyota. Les 8 ou 9, qui sont chargés des hautes spéculations, ils ont déclaré à la fin de l'année que ces 8 ou 9 ont rapporté plus à Toyota que les 50 000 ouvriers. Et tout le monde est bouche bée. Ça va, le scandale que ça représente au point de vue humain. Parce que ça désapprécie complètement le travail. Et alors, à ce moment-là, on court vers le point de cette spéculation. Alors, on pense toujours à la parole d'Aristote, l'argent ne fait pas de petit. Et le jour où, justement, on ne spécule plus qu'à ce niveau-là, et on voit qu'on détruit l'humanité. On la servit. Et asservir l'homme à ce niveau-là, c'est pire que tout. Parce que ça enlève, je dirais, le goût du travail bien fait. Je crois qu'il y a là un péril de l'humanité qui me semble très fort. Alors on pourra dire, mais oui, mais ça permet à l'homme. difficile, pénible, grâce à la technique, tout va beaucoup plus vite et donc il aura beaucoup plus de loisirs. Très bien. Mais il faut encore que l'homme puisse vivre de ses loisirs d'une façon humaine. Si on abrutit l'homme, or, on éduquera toujours l'homme en premier lieu par le travail. Si donc on supprime ce point de vue fondamental de l'éducation, il n'y aura plus que l'autre aspect, c'est connu, uniquement le plaisir. Et l'homme se reposera dans des plaisirs qui sont des plaisirs fallacieux, des plaisirs tout à fait secondaires, qui à la place de former l'homme, continuera de le détruire. On aura, selon le langage de l'Apocalypse, symboliquement, l'Égypte et Sodome. J'aime beaucoup ces deux symbolismes, parce que ça exprime très bien cela. L'Égypte.
De l'esclavage au jeu.
L'esclavage au jeu.
Ce qu'on voit, tous ces jeux qui se développent.
C'est exactement ça. Et c'est purement fallacieux.
L'homme se distrait.
Alors, on est en face de ça. Et personne n'a l'air de crier le signal d'alarme. Il dit, mais voyez pas où vous allez. Personne. On dit, mais c'est très bien, c'est le progrès. Mais le progrès. Est-il pour l'homme ou l'homme est-il asservi à ce progrès? Alors, c'est là où cette philosophie du travail me semble mais capitale aujourd'hui pour tout simplement saisir où est le déraillement. On sait très bien, quand on est un tout petit peu intelligent et qu'on voit un train qui déraille, on cherche à quel moment il déraille. Quel est le point de départ? On n'ose pas le dire. C'était cette réflexion que m'avait fait quelqu'un qui est un de mes amis, qui est dans la diplomatie, il a l'avantage d'être dans la diplomatie d'un tout petit pays. Alors, il est très libre au point de vue du pouvoir. Et il me disait, quand il avait assisté à Stockholm, à une assemblée réfléchissant sur la pollution, ce grand drame de la pollution, c'était du temps de Mao. Il y avait les types de Mao qui étaient là, en uniforme, visibles, et qui ont tout simplement posé le problème comme ça, dès le point de départ. La science est-elle pour l'homme, ou l'homme est-il pour la science? Personne n'a répondu. Ils ont posé ça plusieurs fois, en disant, la pollution, il faut la prendre à la racine. Et donc, la science est-elle pour l'homme, ou l'homme est-il pour la science? Et ça l'avait beaucoup impressionné, je comprends, évidemment. Et la presse n'a pas répété ça. Parce que c'est élémentaire. Et au fond, je crois que toute la philosophie du travail, aujourd'hui, redonne aux philosophes ce sens premier du corps. Si je travaille, c'est à cause de mon corps. Et mon corps est engagé dans le travail. Alors, il y a un retour à la philosophie sur le corps. Mais sur la corporéité, c'est pas encore la même chose. On idéalise le corps. On regarde le corps dans une perspective encore dialectique, alors qu'il faudrait essayer de comprendre le corps dans son réalisme profond. Le corps a besoin d'un univers. On est dans un univers qu'on peut transformer, mais qu'on doit aussi respecter. Cet univers, il nous est donné. Peu importe. Comment il nous est donné? Mais il nous est donné, c'est pas nous qui l'avons fabriqué. Ça, personne n'oserait dire qu'il a fabriqué cet univers, qu'il a fabriqué le soleil, qu'il a fabriqué la lune, qu'il a fabriqué les étoiles. Il nous est donné. Bon. On doit le respecter exactement comme un enfant quand on lui donne un jouet extraordinaire. On t'a donné ça. C'est merveilleux. Alors, tu ne vas pas le casser. Il faut avant tout le respecter, voir ce que tu peux en faire. Connaissance de cet univers par rapport à l'homme et une connaissance pratique de cet univers par rapport à l'homme, et cette connaissance pratique, elle se fait grâce à cette coopération. S'il n'y a pas cette coopération, il y aura tout de suite une vision de lutte, d'opposition, une vision dialectique d'une part l'univers, d'autre part l'homme, et alors on sera dans cette position de tension. Alors que une vraie philosophie du travail va permettre philosophie commence par le point de vue d'une philosophie du travail, vu non pas d'une manière dialectique à la manière de la praxis, mais d'une manière très simple, en réfléchissant sur l'homme qui sait travailler. Il y a encore des hommes qui savent travailler aujourd'hui.
Justement, est-ce qu'au-delà de ça, l'artiste n'a pas un rôle à jouer pour rappeler le vrai sens du travail humain aujourd'hui?
Je crois.
De quelle manière?
Je crois que le véritable artiste, à ce moment-là, est une sorte de contrepoids par rapport à la science et par rapport à la technique.
Et pourquoi?
Parce qu'il a le sens de la qualité. Il a le sens que notre univers est premier. C'est pas nous qui l'avons fait. Et on se replonge toujours dans cet univers pour retrouver quelque chose de nouveau et qui nous est donné aussi par l'univers. Je crois qu'une anthropologie qui peut être solide, elle trouve le roc de toute la philosophie sur justement cette philosophie du travail. Cette philosophie du travail, et surtout quand elle touche ce qu'il y a de tout à fait premier, d'ultime, si vous voulez, dans chez l'artiste. L'artiste nous donne le sens de la qualité. On voit ça chez le peintre, le sens de la lumière. On voit ça chez le musicien, le sens du rythme. Ça chez le sculpteur, il a le sens de la matière et de la qualité de la matière, pas n'importe quelle matière, mais la qualité de la matière qu'on respecte. Il n'y a rien qui fait plus de mal à un artisan que de voir quelqu'un qui, en face d'une matière noble, toujours un peu cette nostalgie. Et c'est peut-être ce qu'on trouve alors, quelquefois, dans de certaines théories de l'art, et certaines perversions de l'art, parce que je crois que ce sont des perversions, où on voudrait, justement, réaliser une œuvre artistique à partir de rien. Alors, on saccage le patrimoine initial, on le détruit pour avoir l'air d'être plus créateur. Mais je crois que ça, c'est des faux créateurs qui font ça. Le vrai, le véritable artiste aimera partir d'une matière plus qualitative pour réaliser davantage son chef-d'œuvre. Mais l'artiste qui aime de détruire le point de départ pour montrer davantage ce qui vient de lui et ce qui est de lui, je crois que là, il y a un sens de l'activité artistique et du travail humain qui est contraire à la réalité. C'est l'aspect subjectif qui l'emporte. Tout doit venir de lui. Alors c'est la fameuse chose aujourd'hui, la néantisation qui se réalise jusque-là. Il faut néantiser avant de créer. Eh bien, néantiser avant de créer, pour celui qui essaie de comprendre un peu ce que ça représente, c'est juste l'inverse de la coopération. Quand on est avec quelqu'un ou une matière où on veut coopérer, on ne va pas d'abord l'annihiler en disant « ensuite, je pourrais faire ce que je veux ». C'est juste l'inverse qu'on doit faire. On doit d'abord respecter le donné et à partir de là, voir ce qu'on peut en donner. Et alors c'est là où justement la philosophie du travail, la philosophie de l'activité artistique prend toute sa force pour montrer que c'est très vrai. L'homme fait quelque chose de nouveau et il cherche toujours à faire quelque chose de nouveau. Ça l'ennuie d'être dans l'imitation et la série. Il le faut, parce qu'il faut multiplier les choses intéressantes. Mais ce qui est important pour lui, c'est d'inventer, c'est de recréer quelque chose, de refaire quelque chose. Mais il ne peut le faire qu'à partir de ce respect initial à l'égard du donné. Ce que je crois très important. Si on regarde cette philosophie du travail et cette philosophie de l'activité artistique, on est donc en présence de ce qu'il y a de fondamental dans l'anthropologie et dans une philosophie qui se tourne vers l'homme. Et c'est l'intérêt qu'il y a du reste dans ce fait de parler de l'anthropologie. C'est une philosophie qui se tourne vers l'homme et qui regarde d'une manière très simple la complexité du travail humain, la grandeur du travail humain, et qui regarde que le travail humain se sert de l'outil pour réaliser une œuvre plus parfaite. Et alors, on pourra préciser que l'outil deviendra de plus en plus complexe, quelque chose de plus en plus fort, qui quelquefois semble écraser l'homme. Le premier outil était dans le sens de l'efficacité, la main qui se prolonge dans l'outil. Aujourd'hui, avec l'ordinateur, on a l'intelligence humaine, la raison qui se prolonge avec l'ordinateur. Donc on est en présence de quelque chose de tout à fait nouveau au plan philosophique et au plan du travail humain. Une espèce d'amplification extraordinaire de la raison. Alors il faudrait, et le philosophe doit regarder ça avec beaucoup d'attention. L'ordinateur, cet outil nouveau, merveilleux, qui prolonge nos calculs, qui prolonge nos raisonnements, qu'est-ce qu'il opère de nouveau? Qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd? Je crois que c'est le raisonnement qu'on doit faire dans l'utilisation de tous les outils. Un véritable artiste, c'est très curieux, et un artisan aussi, philosophe devrait rappeler à l'homme ça. Il se sert d'un outil. Donc si on se sert d'un outil, on doit savoir ce que cet outil va apporter de plus, ce que cet outil va apporter de moins. Je me sers du TGV. C'est un outil merveilleux. Mais qu'est-ce qui m'apporte de plus? Je le sais, très facile. Hein, toute la propagande est faite là-dessus. La rapidité, je vais presque aussi vite qu'avec l'avion, c'est merveilleux et c'est moins cher. Donc je le sais. Économiquement, c'est très facile. Qu'est-ce qui me fait perdre? Alors ça, personne ne lui dit. On est dans un monde où le progrès comme tel s'impose d'une manière telle que même si l'homme en crève, le progrès continue. Parce qu'on ne voit que...
On ne regarde plus le coût humain de voilà, chaque progrès.
Exactement. Et c'est là où on voit que le philosophe ne joue plus le rôle qu'il devrait jouer.
Bon, Jacques Testard aujourd'hui, biologiste, qui a arrêté des recherches sur l'embryon, pose cette question. Il dit effectivement, on ne se pose plus jamais la question du coût de chaque innovation. Et que, il dit qu'il y a des pertes humaines qui sont faites par des innovations technologiques que tout le monde applaudit, simplement parce qu'on ne regarde plus la finalité profonde. Vous rejoignez. Et comme il n'y a plus de philosophes, ce sont des biologistes maintenant qui sont obligés de réagir.
Alors ils réagissent
parce qu'ils ont un tout petit peu
devant quelque chose d'immédiat, parce qu'ils voient.